Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission Point de mire, qui va nous permettre d'aller à la rencontre de la nouvelle Société des études sur la restauration en compagnie de son président, Jean-Paul Clément. Monsieur Clément, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Canal Academy. Vous êtes membre correspondant de l'Institut et vous avez été jusqu'en 2008 directeur de la maison de Chateaubriand.
C'est exact.
Chateaubriand qui d'ailleurs est au centre de vos travaux depuis et de votre vie depuis de nombreuses années.
Pas mal d'années. Oui.
Mais revenons donc à la NSER, la nouvelle Société des études sur la restauration que vous avez fondée donc en 2001. Et tout d'abord, pourquoi avoir fondé cette société? Comment vous en est venue l'idée?
Eh bien, l'idée m'en est venue parce que c'est une période relativement courte, 15 ans, qui a été pendant très longtemps délaissée. C'est une période triste. Il vient de paraître un livre de M. Furex sur les pleurs et les larmes sous la restauration, mais il rétablit les choses avec beaucoup d'objectivité. Et donc, une période de la compassion, des pleurs, des commémorations, de la chapelle commémorative de la famille royale, que sais-je encore, et surtout très cléricale, très enfermée, si je puis dire, très liée dans l'Église, une sorte de théocratie, si je puis dire, avec Louis XVIII et plus encore avec Charles X. Donc, les historiens ne l'ont pas beaucoup étudié. Il y a eu des éditions qui ont été faites grâce à Guizot au XIXe siècle. Et puis, tout est tombé, si je puis dire, dans l'oubli et surtout dans cette mise à l'écart d'une période qu'on considérait véritablement comme triste et déplorée.
Vous proposez donc avec la NSER de reconsidérer la restauration.
Oui, exactement. Elle est, à mon avis, extrêmement riche. Je m'en rends compte d'ailleurs parce que dans cette société, nous avons beaucoup d'étudiants, de doctorants, d'universitaires qui viennent depuis 2001, et c'est à la Fondation d'Aunetière désormais que se tient notre séance. Nous faisons également des voyages sur les lieux qui ont été habités par quelques-unes des grandes figures de la Restauration. Et puis, l'intérêt de cette époque, on parle aujourd'hui de fracture sociale, on parle de toutes sortes de choses. C'est une période où la France sort d'une dictature après avoir connu une guerre civile, car c'est bien une guerre civile qu'a été la Révolution. Et tout le monde s'interroge. Chateaubriand, dont je peux lire un tout petit passage, montre que les gens sont tout à fait désemparés. Il y a deux mondes qui s'affrontent, le vieux monde qui s'en va, et puis le monde post-révolutionnaire. Alors on voit des émigrés caducs avec des airs et des habits d'autrefois, hommes les plus respectables sans doute, mais étrangers à leur siècle. Et puis les conventionnels changent de langage, ils font l'apologie de la légitimité. Les impérialistes usent encore du langage de la Révolution. Mais le maréchal Soult, par exemple, va à Quiberon, qui est le grand massacre au moment du débarquement de Quiberon de 1795, eh bien, il va avec un cierge à la main. Voilà, donc il y a toute une confusion extraordinaire, mais malgré tout, deux mondes séparés et un roi qu'on ne connaît pas. Il est parti en 1791, il revient en 1814, et quand il arrive à Compiègne, après la première restauration, en compagnie de Talleyrand, l'inévitable, et de l'empereur Alexandre, Chateaubriand est là, lui encore une fois, et il dit « Comment décrire, après l'Attila qui était Napoléon, cet homme podagre, sans grâce et qui marche bien difficilement ?» Et cet homme va montrer, Louis XVIII, déjà un très grand sens politique. Et c'est un des aspects qui nous intéresse beaucoup. Ce sont les débats politiques, la charte de 1814, qui est certainement une très bonne constitution, qui est parce qu'elle est courte et elle permet toutes les évolutions possibles si Charles X y avait mis fin. Il y a un nombre considérable de journaux, d'un renouveau de la presse, qui avait été complètement fermé par Napoléon, puisqu'on disait « Napoléon est le dernier journaliste de France ». Et là, au contraire, il y a une très grande censure. Mais on trouve des libéraux, on trouve des constitutionnels, on ne sait pas trop ce que c'est, des ultras, le journal des débats qui renaît, qui va devenir le grand journal, le journal des frères Bertin, qui vraiment joue un rôle dans l'opinion tout à fait considérable. La presse, que d'autres encore? Eh bien, la peinture, les salons. On rouvre des salons de peinture sous Louis XVIII, sous Charles X, avec Giraudet, Ingres, de grands peintres reparaissent, d'autres de l'Empire eh bien, se convertissent aussi. Et vraiment, la volonté de Louis XVIII a été de renouer la chaîne des temps, c'est son expression, et renouer la chaîne des temps, c'est réunir, réconcilier eh bien, ces deux Frances qui se sont affrontées avec une violence inouïe, la guillotine, la chouannerie et que sais-je encore. Donc, il y a d'autres aspects qui sont très intéressants aussi.
Donc, en fait, à travers cette société, oui, vous proposez d'encourager la recherche sur la restauration.
Exactement.
À travers des angles très différents, historiques.
Historiques, militaires, littéraires, politiques, de la pensée politique, qui vraiment rejaillit de partout, que ce soit à droite, avec Bonald, par exemple, Joseph de Maistre, ou à gauche, avec les libéraux, qu'on considère comme des gens de gauche, mais aussi l'apparition de nouvelles écoles qui auront une très grande influence, par exemple Auguste Comte et le positivisme. On le trouve jusque chez Renan, de même pour Saint-Simon et les Saint-Simoniens. Donc, une très grande liberté d'expression qui reparaît, et puis des créations nouvelles. Par exemple, sait-on que la Cour des comptes a été rétablie à cette époque-là, que la monnaie aussi. Enfin, il y a vraiment une création. Et puis, il faut bien restaurer la France qui est complètement anéantie par les guerres napoléoniennes, qui a été vraiment saignée à blanc. Et il faut le dire, quelles que soient leurs opinions politiques, Louis XVIII pratique l'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a d'anciens ministres très compétents de l'Empire qui entrent dans le gouvernement, comme Corvetto ou d'autres, et puis il y a des conservateurs ou des ultras, mais ce sont en général, Villèle particulièrement, de très bons administrateurs. Donc on crée des routes, on bâtit des ponts, il y a vraiment une renaissance de la France dans tous les domaines.
Alors selon vous, Monsieur Clément, pourquoi cette période du 19e, alors que le 19e est finalement très étudié, pourquoi cette période a été mise entre parenthèses, a été si vilipendée, comme vous le disiez tout à l'heure?
Parce que beaucoup d'historiens, et en particulier d'historiens de la Troisième République, étaient plutôt des radicaux, puis des socialistes comme Soboul, par exemple, mais des radicaux comme Hollard ou d'autres, qui ont considéré que véritablement c'était une période sombre, qu'il fallait écarter, mais au contraire exalter le 1848. C'est le cas, effectivement, de prenez le dictionnaire Larousse. Pierre Nora considère qu'effectivement, c'est la mémoire de la République. Il prend le dictionnaire Larousse comme il prend d'autres éléments pour montrer qu'effectivement, il s'agit d'exalter la République à travers tous ces symboles, tous ces mythes. Depuis la Révolution, Clemenceau dira, mais la Révolution est un bloc, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au coup d'État de Brumaire et de Bonaparte. Donc, on ne l'enseigne pas, elle ne semble pas intéresser les étudiants, et ce que je remarque encore aujourd'hui, et c'est cela que nous essayons dans un bulletin qui paraît de la NSER, une fois par an, eh bien, de reprendre toutes les communications qui ont été faites avec quelques illustrations. Et nous avons créé un site internet qui fonctionne actuellement, qui est nser.fr.
Voilà, j'encourage nos auditeurs à s'y rendre. On va d'ailleurs se pencher peut-être un peu plus sur le fonctionnement de la NSER. Vous faisiez allusion tout à l'heure à ses membres. Combien avez-vous de membres actuellement ?
Actuellement, nous avons une soixantaine de membres.
D'accord. Et quel est leur profil ?
Toutes sortes de profils. Des gens cultivés qui venaient à la Vallée aux Loups et qui continuent de venir dans notre société. Et puis, à la fois des universitaires et des étudiants, je le disais, qui s'intéressent beaucoup à cette époque-là et souvent font une thèse sur des sujets extrêmement pointus. Par exemple, à Lyon, sur la place Bellecour, la statue de Louis XIV avait été rasée. Eh bien, il montre toutes les difficultés qu'ont rencontrées les autorités administratives. Ils ont mis, je pense, 5 ans, 6 ans pour rétablir la statue de Louis XIV. Eh bien, c'est un sujet de thèse, mais qui montre aussi le fonctionnement de l'administration, les rivalités entre les élus et le préfet. C'est l'occasion de montrer comment fonctionne une monarchie représentative, parce qu'il y a deux chambres. Elle se bâtit dans le style anglais, avec vraiment une liberté des débats très grande. Alors, encore une fois, pour répondre à votre question, cette période, la Troisième République l'a, si je puis dire, enveloppée dans les ténèbres, on n'en parlait plus. Elle continue à l'être d'ailleurs, non pas dans l'université, mais dans le secondaire, où ma fille en seconde avait une demi-page sur la Restauration, avec une illustration qui en prenait la moitié, donc un quart de page, avec le portrait en pied de Louis XVIII en costume de sacre, alors que Louis XVIII n'a jamais été sacré. Bien. On voit le peu d'intérêt de la chose et on passait tout de suite à la révolution industrielle. Parce que, effectivement, l'économie, les questions sociales, les mentalités, tous ces sujets-là intéressaient davantage que l'histoire politique, alors les mentalités, elles reviennent aussi. Le livre de Furex que je citais tout à l'heure qui vient de paraître, c'est sur les mentalités des Français, quelle que soit leur obédience, leur attachement à tel ou tel parti. Donc, il y a vraiment un grand renouveau. Bruno Foucard, par exemple, lui s'est intéressé particulièrement à la peinture religieuse. D'autres s'intéressent aux manufactures qui renaissent, en particulier celles de Sèvres. Donc il y a une très grande diversité dans une période très resserrée dans le temps. Et c'est en cela que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à étudier, un intérêt renaissant aussi des éditeurs qui jusque-là ne s'y intéressaient pas beaucoup. J'avais, par exemple, Michel Crépu de la Revue des Deux Mondes, et il me disait que, lorsque j'ai publié un livre sur la biographie intellectuelle et morale de Chateaubriand, il était à l'Express à l'époque, il avait fait un article, et puis il n'a pas été publié. Donc c'est relativement récent, et notre société, avec, je l'espère, que le site Internet renforcera en nombre, en adhérents, par des voyages, par nos réunions, etc., avec l'appui de l'Institut, que je tiens à remercier, eh bien, va véritablement renaître et reprendre ses couleurs. Et j'ajoute une chose, l'esprit de la NSER, ce n'est pas de faire de la géographie. J'ai peut-être donné cette impression-là. Non, il y a des choses éminemment critiquables. L'exécution des sergents de La Rochelle, des affaires diverses qui ont traversé les lois de censure, qui ont été très nombreuses, mais à travers lesquelles on réussissait très bien à passer, sous le manteau, les bureaux de lecture, etc. C'est l'époque où Adolphe Thiers, la Fondation Adolphe Thiers, écrit une histoire de la Révolution et de l'Empire. Donc il n'y a pas de censure, mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement l'intérêt et tous les aspects, toute la palette de couleurs de cette époque, encore une fois, en étant aussi objectif que possible. Et on l'est nécessairement, puisque nous avons des intervenants qui viennent de milieux, ou d'horizons plus exactement, très différents. Certains sont vraiment des universitaires, mais nous faisons venir aussi, parce qu'ils nous apportent quelque chose. Ils ont des archives de famille. Le général de Bourmont, qui a pris Alger en 1830, le prince de Polignac, eux, évidemment, apportent des archives de famille. Donc, c'est tout cela qui est passionnant dans notre entreprise.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Clément, pour donc, cette présentation de la NSER. Juste, les adhésions sont libres. N'importe qui peut adhérer à votre société ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je peux donner l'adresse.
Bien sûr.
Donc, Jean-Paul Clément, celui qui vous parle. Et l'adresse, c'est au 29 rue Vanneau, 75007. Et donc, encore une fois, nser.fr, que je conseille. J'en suis très fier. Alors, qu'on m'adresse des critiques et j'y répondrai. Et on peut également poser des questions et demander et participer. Enfin, encore une fois, il y a une boutique également qui permet d'acquérir des livres. Et on va élargir cette boutique d'achat en ligne. Donc, encore une fois, si je puis dire, les instruments modernes pour donner, faire connaître tous ces aspects-là. Et là, je regardais tout dernièrement, quand on met « restauration », au début, évidemment, on voyait « restaurant ». Et maintenant, « restauration », dans son sens historique, reparaît dans le premier ou deuxième rang lorsqu'on tape sur son ordinateur.
Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour être venu nous présenter la NSER. Je répète donc l'adresse internet de votre site, nser.fr. Pour donner l'eau à la bouche, si j'ose dire, à nos auditeurs, pouvez-vous nous dire, nous donner le programme 2010 ? Avez-vous des journées prévues ?
Alors, nous avons une journée le samedi 17 avril à la Fondation Donnetière à 14h30 et nous allons parler de l'armée de la Restauration, de la pensée de Bonald, qui est l'œuvre d'un jeune historien, un fait particulier, mais très intéressant. Le baron de Barante, qui est devenu ensuite plutôt Louis-Philippard, eh bien, est préfet de Loire-Inférieure, donc vous voyez Nantes, entre la Chouannerie et Nantes, qui était républicaine. Eh bien, il a été préfet lors de la première Restauration. Et une thèse a été faite sur le rôle du baron de Barante pendant cette année. Nous allons évidemment en parler, c'est l'occasion d'un débat. Et encore une fois, ensuite, le bulletin reprend in extenso toutes ces communications.
Donc rendez-vous sur nser.fr. Merci Monsieur Clément, au revoir et à bientôt.